Bonjour messieurs.
Bonjour Nicole, bonjour Denis, bonjour nos auditrices et auditeurs.
Oui, bonjour Nicole, bonjour Roger, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver.
Eh oui, nouveau numéro de 13 Passion, le magazine du rugby à 13 sur Radio-Marciette, le seul magazine en France du rugby à 13, oui, pendant une heure. Hein. Alors, un programme éclectique, puisque dans un premier temps, nous allons recevoir Roger Aguera, l'un des co-présidents du Val 13, qui va nous parler et bien de la Valentin du 13.
Je l'appelle de suite. Pardon. Je l'appelle tout de suite.
Oui, mais est-ce que Denis a d'autres informations?
Non.
Oui, vous pouvez l'appeler de suite.
Je suis là, je suis en vacances cet après-midi. C'est que je fais comme les élèves, c'est les vacances de février.
Oui. Voilà, il est en vacances. Après, Roger Aguera, bon, nous ferons quelques petites infos, peut-être. Et ensuite, nous aurons Denis, comment il s'appelle, le président du comité d'ordre.
Je ne sais pas.
il se mouille et s'est foutu de moi quand je me plantais sur le nom du président de la fédération, mais lui il se plante lamentablement sur le nom du président du comité de l'ordre de Rivière 13. Allez, je ne vais pas le faire trop souffrir. Et Jacques Rodriguez, le nouveau président du comité de comité de l'ordre de Rivière 13. Et puis on vous fera le programme du week-end release qui va être plus mince qu'un feuillet cigarette. Puisque le match Carcassonne-Saint-Gaudens est reporté, puisqu'il y a, vous le savez, bon, un Covid du côté de Saint-Gaudens. Et de même, à Lézignan, il y a un Covid aussi, entre Lézignan et Villeneuve-sur-Lot. Quand je disais qu'on allait faire la finale championnat pour toutes, je plaisantais, mais à ce train-là, ça fait que Carcassonne n'aura pas joué deux mois, Denis.
Bah oui, depuis le match, le dernier match, je crois que ça fait quatre, puisqu'ils ont eu trois matchs reportés, deux pour Covid, un pour le stade impraticable, plus un week-end qui était déjà prévu de rattrapage, et à ce moment-là, ils n'avaient pas de match à rattraper. Donc ils n'ont pas joué depuis Limoux, le déplacement au stade de l'Aiguille, c'est-à-dire, je vous dirai ça, c'était le 16 et 17 janvier. Donc normalement, si tout va bien, ils joueront le week-end prochain, alors à match en rattrapage à Albi. Mais si tout va bien, maintenant on est obligé de prendre des précautions.
Oui, avec précaution et prudence, devrait avoir lieu.
Alors, bon, peut-être je le dis là, je ne sais pas si déjà M. Guerra est là. Mais
oui,
bon,
il est là.
Bon, éventuellement, parce que hier... Florent,
oui, vas-y.
Il y avait l'émission que je vous conseille de regarder d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de Carcassonne 13. Chaque jeudi soir, il y a une Carcassonne 13 fait une émission télévisée, un petit magazine de demi-heure, très très bien fait d'ailleurs, où ils interviewent des joueurs de Carcassonne. Un membre d'encadrement ou un dirigeant, enfin, bon, c'est très bien fait. Hier, il y avait Florentos, préparateur physique de Carcassonne, et il a annoncé qu'il avait participé à une réunion de préparation avec la commission médicale de la fédération, et donc ils vont proposer au club, il ressortirait, bon, après c'est la fédération qui doit faire cette proposition, puisqu'actuellement les tests sont faits en milieu de semaine, donc le mercredi, donc c'est-à-dire que si dès qu'il y a un cas positif, compte tenu que les joueurs s'entraînent dès le mardi, dans tous les clubs, si un cas positif le mercredi, ben tous les joueurs sont cas contact de la veille, oui. Donc à ce moment-là, tous les joueurs sont interdiction de jouer et de s'entraîner pendant 8 jours, et ils ne peuvent reprendre l'entraînement que le jeudi de la semaine suivante. Et si à ce moment-là, si les tests sont négatifs, ils n'ont la possibilité que de s'entraîner deux fois au minimum, jeudi, vendredi, pour le match dont il y a double pénalité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas jouer un match, et puis le match d'après, ils ont très peu d'entraînement. Donc là, ce qu'ils ont, ils vont proposer au club, apparemment, du côté de la... Enfin, tout sous réserve que ça soit accepté par le comité directeur, par la commission médicale de la fédération, d'avancer les tests de faire des tests le lundi matin. Donc c'est comme ça, il n'y aurait pas, compte tenu que les clubs commencent à s'entraîner que le mardi, ils auraient les résultats le mardi, avant le premier entraînement. Donc s'il y avait un joueur positif, il serait écarté immédiatement, donc à ce moment-là, il n'y aurait pas de cas de contact, ce qui fait que les autres pourraient, enfin, si j'ai bien compris, en gros c'était ça, les autres pourraient disputer des matchs, le match de la semaine, puisqu'il n'y aurait plus de cas de contact. C'est une hypothèse, a priori, sur laquelle semble travailler la commission médicale de la Fédé, mais il faut attendre que cette information soit...
Ça serait l'une des meilleures solutions, d'ailleurs.
Ça permettrait, dans tous les cas... Au niveau du rattrapage des matchs en retard, tous les matchs qui étaient en retard avant cette journée ont été recasés. Mais c'est vrai qu'actuellement, compte tenu également que la Fédération a décidé que la coupe, mais que ça sera peut-être pas la coupe Lord Derby, mais dans tous les cas, la fédération a décidé qu'il y aurait un trophée qui serait une compétition qui va être faite à la place de la coupe Lord Derby. Peut-être ça s'appellera autrement, exceptionnellement, pour réserver à l'élite 1, puisqu'il n'y a que l'élite 1 qui joue. Dans les dates, il y aurait un premier tour, un premier barrage avec tirage au sort entre quatre clubs tirés au sort. Donc il y aurait donc 6 clubs qui seraient qualifiés directement pour les quarts de finale, et les deux vainqueurs des deux barrages reviendraient rejoindre, et donc ça ferait un barrage, quart de finale, demi-finale et finale. Alors, est-ce que ça, a priori, ça ne serait pas la Coupe Lord Derby, puisque la Coupe Lord Derby s'adresse à tous les clubs de France. Peut-être ça pourrait s'appeler autrement. Enfin, pour l'instant, on attend les communiqués exacts, mais c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup, à part ces jours réservés à la Coupe, qui étaient réservés à la Coupe Lord Derby, il ne reste plus beaucoup de matchs, de week-ends.
De date.
Donc, il reste quand même pas mal de journées à jouer. Donc ça devient... Moi, je ne suis pas sûr que le championnat puisse aller à son terme. Peut-être il y a des solutions comme celle de la Super League l'an dernier, de dire qu'il faut pouvoir se qualifier, il faut avoir disputé un certain nombre de matchs minimum. Allez, on va retrouver, je pense, Roger, monsieur Aguera.
Oui, monsieur Roger Aguera, le co-président de Villarien à Aragon 13. Hein. Monsieur Aguera, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Bonjour, monsieur Aguera.
Alors, Roger Aguera, Villarien à Aragon, ne reste pas les mains dans les poches. Bon, il est vrai que le Covid empêche le champion de France Elite 2 de se dérouler, mais au niveau école rugby, au niveau gamin, eh bien, quand même, Villarien-Aragon offre des possibilités aux gamins licenciés, voire aux gamins licenciés, eh bien, de pratiquer un peu de rugby à 13 sous forme de découverte. C'est bien ça?
Alors, c'est venu de l'idée, si vous voulez, de vouloir faire quelque chose. On ne peut rien faire pour les grands, hein, comme l'a bien expliqué tout le monde. Par contre, pour les petits qui ont envie de bouger, on s'était fixé à Noël un essai. On a fait, je crois, 2 ou 3 jours à Noël, où on est parti avec nos licenciés qui étaient peu nombreux, 10-12, et où on s'est retrouvé entre 20 et 25 gamins tous les jours à cette initiation. Donc on a dit, il faut continuer. Entre Noël et les vacances de février, on a fait 2 samedis d'apprentissage, et il s'est avéré que des petits qui étaient venus à Noël sont revenus de même. Donc on a dit, il faut faire quelque chose de bien. C'est pour ça qu'on a fait le tournoi de l'apprentissage de la Saint-Valentin. On va leur apprendre le jour rugby, hein, pas à faire des baisers.
Voilà. Sur 3 jours, c'est-à-dire c'est le 15,
alors,
le 13 et 7 février.
Alors comment ça se passe? C'est une initiation, c'est par atelier. On essaie, si on a le nombre, je pense qu'on l'aura, de faire des ateliers de même âge. Oui, des 6 ans, des 9 ans, des 11 ans. Et on travaille par rapport au protocole de la fédération, avec le bouquin d'enseignement de 13 qui a été édité par la fédération, avec un éducateur diplômé qui est Christophe Godel. Voilà.
Alors, donc, les jeunes, donc les jeunes...
Oui, les jeunes, donc ça leur permet déjà de se défouler avec tout ce qui se passe. Et il y a beaucoup de parents qui ont demandé donc ce rassemblement sur Ville-Gaillen, parce que c'est un peu central. Hein, c'est Villerousse-Toussou, Penautier, Aragon, Villardonnet, Cuxac. Bon, c'est un point de chute qui est assez pratique pour les parents qui n'ont pas à traverser tout Carcassonne. Voilà.
Alors,
on a choisi de le faire avec la Maison des Jeunes. On leur a proposé de le faire à Ville.
Oui. Voilà. Alors, voilà, il faut donc préciser que c'est ouvert à tous les gamins, voilà, licenciés ou non licenciés.
De 5 à 15 ans, licenciés ou non licenciés. Alors, le but c'est de voir après, nous, autour du terrain, s'il y a des enfants qui ont des aptitudes, qui n'en ont pas, à eux, ça leur permet de connaître un peu le jeu à 13, avec des ateliers ludiques.
Oula, vous allez vous faire engueuler, c'est le rugby à 13. Hein.
Oui, le rugby à 13, oui.
Attention, là. Hein.
Ouais. Oui, donc, mais c'est un jeu, quand même. C'est un jeu, quand même.
À ce niveau, je crois que il vaut mieux leur parler de jeu.
Parce voilà, que exactement. Jeune, Voilà.
Bien établi,
monsieur Gara,
bien établi.
Voilà.
Denis, je te reverrai ça. T'as rien perdu pour
attendre. Après, les adultes, ils l'appellent ce qu'ils veulent. Ils peuvent l'appeler match de boxe s'ils veulent. Non, mais voilà.
Boxe, c'est un autre ballon mobile.
Voilà donc ce que... Et aux dernières nouvelles cet après-midi, on a quand même pas loin de 30 inscrits déjà pour le lit.
Oh, c'est bien. Alors, pour les non-licenciés, ils peuvent avoir une licence provisoire, de manière à ce que s'il leur arrive un petit pépin, en principe non, parce qu'il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de
descendant,
ils sont quand même couverts par l'assurance.
On fait une déclaration à la Fédé, on remplit l'imprimé avec le nom, le prénom, l'âge et l'adresse, qu'on envoie à la Fédé et les gens sont couverts. Voilà.
Alors,
qu'ils soient licenciés ou pas.
Mais
pour les non-licenciés, exactement. Bon, et après, nous, ça nous permet quelque part, derrière, de faire une relance après pour essayer de ramener les gamins chez nous. Quoi, hein. Voilà.
Oui, à l'école de rugby. Alors, ces ateliers, que vont-ils proposer à tous ces gamins?
Ben, vous savez, il y a l'atelier d'attraper une balle par terre avec la main, par exemple. Avec une main. Un ballon, l'attraper par terre avec une main. C'est des passes. De toute façon, on respecte, il n'y a pas de contact. Hein. C'est tout que des ateliers, des mini-courses. Tous respectent le protocole sanitaire, il n'y a pas de souci. Mais on leur fait faire que des ateliers, il n'y a pas de contact, même en fin de séance, il y a un match, mais c'est simplement à toucher. Voilà, petit match à toucher. Et on s'est aperçu qu'ils se défoulent vachement. Hein.
Voilà, ils ont le plaisir de taper du ballon ovale. Hein.
Voilà, exactement. Ils touchent du ballon ovale, après il y a des coups de pied, il y a beaucoup de... On n'en est pas encore à la perfection, mais c'est de l'initiation. Hein. C'est de l'initiation. Et à partir de là, où les parents ou les enfants décident s'ils veulent continuer ou pas. Voilà. Mais s'ils ne connaissent pas...
Oui, c'est absolument libre.
Voilà. S'ils ne connaissent pas comment ça se passe, hein, c'est vrai que ce n'est pas les médias, la télévision qui vont montrer, qui nous aident à présenter ce jeu-là. Donc ça veut dire qu'il faut amener les gens chez nous, les jeunes chez nous, et c'est eux qui décident après. Parce qu'il y a quelques footballeurs qui sont venus à Noël, et bien ils ont dit, ah ben ça me plaît davantage que le foot. Bon, c'est eux qui décident. Mais il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas le jeu à 13 dans les enfants. Alors c'est là où on se rend compte quand même qu'il y a énormément de travail à faire. Voilà, je pense, d'après moi.
Oui, c'est vrai qu'il y a un manque flagrant de communication, un petit peu, mais là, quand même, bon, c'est très intéressant. Alors, C'est gamin quand même. Ils ont le goûter, je suppose, des récompenses.
Oui, ils ont le goûter, il est distribué dans une poche individuelle, donc il n'y a pas de souci. Hein.
Oui. Oui. Denis ?
Oui, monsieur Adéra, s'il y a des parents qui lundi n'amènent pas leurs enfants ou qui veulent les amener par exemple le mardi, est-ce que s'ils n'ont pas été inscrits, est-ce que vous les prenez quand même ?
Bah oui, il y a un battement, il n'y a pas de souci. Bon, mais après, le problème, c'est l'encadrement. Bon, l'encadrement, je vais faire venir deux ou trois joueurs de la première qui ne travaillent pas ou qui sont en récupération, donc pour donner un coup de main, parce que s'il y a 30 gosses, il faut s'en occuper, quoi.
Voilà. Oui, bien sûr.
Voilà. Et pour 30 gosses, il faut être 4 ou 5 facile. Voilà. Donc, demain, on a un entraînement là, des seniors. Fait pas l'entraînement, une remise un peu en condition demain matin, donc je dois avoir 3 ou 4 joueurs pour les faire venir à tour de rôle lundi, mardi et mercredi. En plus, les gosses, ils aiment ça, parce que pour Noël, il y a Teddy Pellon qui était venu l'après-midi, ça leur a fait plaisir, quoi.
À la mesure.
Voilà, bon, donc on va forcer là-dessus, sur la connaissance de ce jeu, ludiquement, et puis l'ambiance avec des joueurs, bon, ce sont que des joueurs d'élite 2, hein, ils passent par la télévision, mais ce sont des joueurs qui sont dans leur club, voilà.
Oui.
Donc et ça se faisait il y a 30 ans ou 40 ans, et ça se fait plus, donc je trouve que ça manque, voilà.
Ah mais vous avez tout à fait raison, parce que quand tu es gamin, quand t'es pitchou comme ça, c'est vrai que si tu rêves de rencontrer, si tu peux rencontrer un joueur de ton club des seniors, c'est ton rêve d'un petit gamin, quoi, je veux dire. Même s'il ne connaît pas trop le rugby et qu'on lui dit, tiens, ça c'est un joueur qui joue d'habitude, il va le bader, comme on dit. Quoi.
Il suffit qu'on leur montre des photos avec un bouclier, que le joueur est en photo avec le bouclier. C'est fini, oui, il a été champion de France, oui. Avec le voilà, c'est un tel. L'histoire des Néo-Zélandais aussi, tout ça, c'est un plus. Moi, je dis qu'on le fait passer. Bon, on le fait passer, pourquoi? Il manque beaucoup de bénévoles. Et là aussi, faire des choses comme ça, je pense que c'est positif, parce qu'il y a des parents qui ont presque envie de s'impliquer. Ouais. Et c'est à nous à pister les parents qui peuvent être demain des dirigeants. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous pouvez faire le coup double, c'est-à-dire attirer des gamins et attirer des parents ensuite qui a rejoint, en effet, ça peut faire une double action, en effet.
Vous savez, il y a un papa, il nous a dit, le dernier jour, il nous a dit, écoutez, au prochain stage, moi, les petits de tel endroit, je vous les ramasse, je vous les amène.
Ah. Voilà. Oui, voilà. C'est intéressant. Voilà. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de gamins non licenciés qui n'ont jamais touché du ballon ovale?
Alors, demain, il va y en avoir un minimum 15.
Oui, la moitié.
La moitié,
oui. Oui, c'est porteur.
Ah oui, minimum, hein. Je dis bien minimum. Hein.
Oui. Denis,
d'autres questions? Moi, je crois que bon, après... C'est vrai que c'est une organisation, après il faut s'en occuper.
Bien sûr, on ne fait pas ça comme ça. Hein. Alors, non, mais moi j'aurais une autre question. Bon, est-ce qu'il va y avoir un au-delà de ce stage? Est-ce que vous avez prévu d'autres?
Eh bien, normalement, on en fera un autre pour Pâques. Voilà.
Voilà. Pendant les vacances scolaires.
Pareil.
Alors, c'est idéal pour attirer les gamins. Voilà. On n'avait pas quoi faire, bon...
Et surtout que cette année, les parents n'y partent pas. Hein. Mmh. Alors, c'est l'année ou jamais. C'est l'année ou jamais. Hein.
Oui.
Voilà. Et entre ce stage et celui de Pâques, on risque de faire deux ou trois après-midi, deux ou trois samedis de découverte. Voilà, aussi. Mais là, c'est pour celui qui ne vient pas pendant les vacances. Voilà, on va essayer de faire un comme ça, quoi. Il faut, de toute façon, vous savez, on était en réunion avec tous les coprésidents, l'élite 2 démarrera peut-être le 11 avril.
Oui, peut-être, oui.
Peut-être. Ils risquent de nous obliger à faire des tests salivaires. Qui c'est qui va les payer, encore une fois, ces tests salivaires? Enfin, bon, moi, je crois que au niveau des, à part l'élite 1, des professionnels, même si quelque part l'élite 2, elle est semi-professionnelle, mais l'année, moi, je la vois mal barrée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à s'investir dans le jeu à 13, mais d'une autre manière. Voilà. Si on a la chance de que tout aille bien après un septembre, que quand l'école du rugby démarre et qu'on se retrouve avec 25 licenciés, ben on a tout gagné.
Exactement.
Et bien, vous allez vous faire taper sous les doigts avec le jeu à 13 ans, hein, vous allez voir ça un petit peu. Il va y en manquer. J'en connais un là. Qui a la plume, qui a la plume légère, hein.
Non, ouais, mais je vous connais.
Je pense. Hein.
Je vous connais, oui.
Ouais. Ah, vous le connaissez, d'accord, ouais. D'accord, oui.
Voilà, voilà
oui.
Ce que j'avais
alors,
à dire.
Est-ce que
j'avais à dire sur les amusements de gosses.
Voilà. Est-ce que aux parents des jeunes qui n'ont jamais touché un ballon, est-ce que vous allez leur donner, vous voyez, ces fameuses cartes-là, qui donnent 3 à l'entrée tous les dimanches?
Oui, mais il y a pas
une belle occasion, ça.
Mais c'est pas l'année, hein.
C'est à l'année, oui, je sais bien.
On va les donner à tous les parents, mais bon, ils pourront pas s'en servir. Hein.
Bah, s'ils peuvent venir dire quand ça reprendra, bon, c'est déjà quelque chose. Ils sauront qu'il y a une carte qui leur permet de venir voir les matchs d'élite 2. Et peut-être que bon, garder les noms et peut-être le randonner l'année prochaine.
Oui, mais vous savez, moi ce que je souhaite, c'est bon, ce stage. Après un ou deux samedis, un autre stage, et puis en fin d'année, on a un fichier. On aura tout un fichier. Si les choses vont mieux au niveau sanitaire, ben, on fait une après-midi champêtre en invitant tous les parents.
Oui, ça c'est bien, ça, oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Du moins qu'on a les coordonnées. Après, bon, il y a un, il y en a pas, il y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on recrée un lien de village, un lien amical, pour pouvoir développer dans les villages. Si on ne crée pas ça, on n'y arrivera pas.
Oui. Denis?
Non, mais moi je trouve que c'est une excellente initiative. On en avait parlé il y a quelques semaines avec Alain Andrieux, quand vous aviez débuté au mois de pour la Noël. Et c'est vrai que ça a du succès. Et c'est une très bonne démarche d'approche pour les gamins, pour cette initiation. Moi je pense que vous y prenez pas de la bonne façon.
Et vous savez, on a fait sponsoriser les goûters. Et ça nous coûte quoi? Ça nous coûte du temps, c'est tout.
Ouais, bien sûr.
Un goûter, c'est 1 € par gosse. Hein.
Oui, c'est dérisoire.
Voilà. Ensuite, à la fin du stage, la dernière fois, on leur a fait cadeau quand même d'un ballon à chacun.
Oui.
Mais c'est pas mal. Et cette fois-ci, je ne sais pas, c'est la surprise. C'est Ludovic qui s'en est occupé. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est un t-shirt ou un truc comme ça. Mais bon, mais chaque fois, il faut créer quelque chose. Voilà. Moi, je dis qu'il faut qu'on soit à la création.
Il faut créer l'événement.
Pour sauver notre maison. Moi, c'est comme ça, quoi. Hein, ou pour la développer. Voilà, pour développer la maison. C'est tout.
Et puis ça permet en plus, non seulement de la développer, mais de faire perdurer la flamme de Villeria, Aragon.
Exactement. Bon, ça paraît pas, mais cette année, avec la réserve et l'élite 2, je crois qu'on était monté à 55 licenciés. Sur les 55, il y en a bien, allez, du Cabardès, il y en a bien une vingtaine. Même plus, je crois, on est à 26 du Cabardès. Je parle de Cabardès, le canton.
Ah, donc, oui.
C'est quand même pas mal, mais tout ça, ils vivent ces gens-là, et derrière, comment on fait? Aller emmerder un club voisin, aller ci, aller là, on crée de nouveau des problèmes. Ces problèmes, si c'est pas l'année prochaine, ce sera dans 10 ans. Mais il faut les enlever, ces problèmes. Si on crée une base, une structure, un socle dans un canton, il faut le conserver. Mais ce que je dis là, je le dis aussi à tous les clubs de la région. Je dis que c'est comme ça qu'il faut faire, il ne faut pas les détruire à droite ce qu'on a fait à gauche. Vous comprenez?
Ah, oui.
Moi je le vois comme ça. Après, il y a un partenariat qui s'est fait avec la maison des jeunes. Si on n'a que 4 gosses de 14 ans, ben on ne va pas les laisser sur le bord de la touche, ils vont à la maison des jeunes. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr. C'est l'intérêt du rugby à 13 qui prime.
Il faut qu'on soit tous dans un intérêt. Et l'intérêt, il faut que ce soit le même, et dans le même chemin, et dans la même direction. Mais les gosses, croyez-moi, ils y sont. Il faut s'en occuper.
Alors, dernière précision, mais tout le monde peut venir assister à ce stage, voir les gamins s'amuser. Au contraire, n'hésitez pas à venir voir tous ces gamins-là.
Plus il y aura de monde, plus ils seront contents. Mais il faut voir la joie de vivre de ces gamins quand ils découvrent pour la première fois. Moi, la dernière fois, je suis resté, pourtant je suis un spécialiste dans l'âme, j'ai dit, mais franchement, on a perdu 10 ans. Des petits, tu as déjà joué à 13? Ah mais non, mais qu'est-ce que c'est? C'est grave.
Et oui,
après, quand tu sors le petit, tu dis alors tu t'es régalé. Ah ouais, c'est chouette, je reviens demain. Hein.
Voilà, voilà. C'est intéressant. Voilà, très bien, très bien. Voilà. Bon, eh bien, on va souhaiter bonne réussite à ces 30 gamins. Moi, je suis persuadé qu'il y en aura davantage.
Hein. Oui,
c'est sur 3 jours. C'est le 15, le 16 et le 17 février, Denis.
Non,
c'est de 14h à 16h. Ça se passe au stade de Jérôme Rieux de Villegaillet. Denis, oui.
Non, je suis simplement pour ajouter que si parmi nos auditrices ou nos auditeurs, il y a des personnes qui sont intéressées, week-end et qui ne nous ont pas inscrits, quelques-uns, c'est encore possible lundi matin, lundi après-midi, vous amenez vos enfants au stade Jérôme Rieux.
Oui, c'est absolument libre.
On vous les refusera pas là, du côté du Var.
Il y aura 3 ou 4 dirigeants du bureau, 3 ou 4 joueurs, plus pas mal de parents qui restent. Non, franchement, on accepte tout le monde. On accepte aussi même les parents qui veulent s'investir.
Oui, d'accord. Eh bien, on va vous remercier, Roger Aguera. Je pense que ça va être une réussite pour Villerien Aragon 13, en attendant.
Donc, on communiquera sur le résultat.
D'accord, très bien.
D'accord, voilà. Eh bien, ça va permettre d'attendre joliment, d'ailleurs, la reprise, nous espérons, du championnat de France Elite 2. Pour cette équipe VR à Aragon 13. Merci Roger Aguera.
Merci.
Allez, merci. Bonsoir.
À bientôt. Au revoir.
Bonsoir
à
tous.
Au revoir. Alors, Denis, c'est intéressant. Cette formule, bon.
Une excellente initiative. De toute façon, tout ce qui peut ramener. C'est vrai que ça montre bien quand même que. Dès qu'on s'adresse aux enfants, même aux parents, là, dans les cantons, et bien voilà, parce que des fois on se dit, oh, il n'y a que dans les villes, etc. Non, ça s'aperçoit que même dans les villages, il y a des gamins, c'est un peu le même système. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler à un autre moment, mais les écoles, parce que seulement avec le Covid, c'est beaucoup plus compliqué, mais la création d'écoles satellites ou dans des petits villages, etc., c'est une formule. Cher Alain Andrieux qui
voilà, c'est grâce à lui. Bon, il est à l'origine quelque part quand même de ce genre de manifestation, et bon, il sera content s'il voit qu'il y a une excellente réussite. Voilà, ça c'était la première partie. Alors Denis, en attendant d'avoir le
6h30, Roger.
6h30. Est-ce que tu aurais préparé par hasard, en attendant d'avoir le président Jacques Rodriguez, est-ce que tu n'aurais pas préparé le premier épisode, je te donne la perche là, si je peux m'exprimer ici, du 13 dans l'histoire?
Alors oui, donc si tu vois, allez, on va apprendre.
Ok, pas de transition en attendant que Nicole puisse contacter
Monsieur Jacques Rodriguez. Ça va durer quand même.
Pas une page partenaire?
Ah oui, les partenaires, oui, si vous voulez, oui.
Bon. Le rugby à 13 vous est présenté par
Comptoir des Vins et Terroirs. Dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olives, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon, en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays Qatar, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Le rugby à 13 vous est présenté par...
Restaurant La Barbacane, depuis ses roseries jusqu'aux vitraux, dans un cadre de charme et d'élégance, le chef de cuisine Jérôme Rion met l'accent sur une cuisine de tradition renouvelée avec raffinement et subtilité, offrant un panorama enchanteur sur les jardins de l'hôtel et les remparts de la cité. Venez déguster un dîner romantique aux chandelles ou en famille, accompagné d'interprétations musicales au piano.
Vous êtes un professionnel et vous avez besoin d'un bon conseil pour vous aider et vous soutenir au quotidien? Le cabinet Jean-Marc Guillaume Sinex, expert comptable, avenue Claude Bernard, à côté du Conseil Général à Carcassonne, est à votre écoute. Les missions d'assistance et de conseils les plus étendues vous sont proposées dans les différents domaines de la gestion d'entreprise, comptabilité, droit fiscal, droit des sociétés, droit social, création et reprise d'entreprise. N'hésitez pas à contacter le cabinet Jean-Marc Guillaume Sinex au 04 68 71 19 36.
Assurance Jérôme Dupin, agent général Allianz, pour une solution simple et idéale à tous vos besoins, auto, habitation, santé, financier. Assurance Allianz, cabinet Ten et Dupin, 295 chemin de Mâquins, ZI La Bourriette à Carcassonne, près de Décathlon.
Allez, monsieur Rodriguez m'a demandé de le rappeler dans 2-3 minutes, donc vous avez le temps de parler du livre de...
Alors, Denis, on va faire le premier épisode du 13 dans l'histoire, qui est un condensé. Denis, tu me rectifies si je me plante, du bouquin « Il était une fois ».
Le rugby de liberté, ouais, ce sont des extraits, voilà, bon. Alors, ça risque de durer peut-être, enfin, si tu m'arrêtes, quand t'en as marre, tu m'arrêtes, voilà.
Allez, t'as pris donc, combien à peu près?
Oh, j'espère 5 minutes, bon, mais...
Allez, 5 minutes, c'est beau.
Des fois, ça dépend. Allez, donc, on va parler de la naissance du rugby, en général. Donc, alors, le rugby est né à partir du football, donc, parce que des jeux de balle sont utilisés les pieds ou les mains, ont traversé les siècles dans les sociétés occidentales, européennes, et certainement en a-t-on exporté vers les colonies de ces puissants pays. Certaines de ces pratiques, selon les époques, étaient même interdites dans certains pays ou certaines régions. Ainsi, le jeu au pied au football fut prohibé en Angleterre vers la moitié du XVIe siècle. Il le serait resté plus ou moins longtemps, en particulier à l'intérieur des villes, où il se jouait dans des rues étroites et de plus en plus habitées et vivantes. Il est donc de plus en plus repoussé vers les campagnes, aux alentours des localités, dans les champs et surtout... dans les schools, collèges, les public schools, les grandes écoles anglaises, où il est toléré car l'on y multiplie les activités de plein air de façon à permettre aux étudiants de se défouler dans un contexte où la vie et la discipline y sont dures. Ce jeu de football est donc pratiqué aussi bien par les classes aristocratiques, dans les universités, que par les classes plus populaires dans les pourtours des villes et villages, où certains auteurs l'ont surnommé le « folk football », c'est-à-dire le football du peuple. Il en est de même pour les autres jeux de balle, puisque le folk football, puisque chaque school britannique a souvent sa propre approche instituée, ici de la balle au pied, avec certaines règles, là encore de la balle au pied, mais avec d'autres codes, et encore ici, ailleurs, des jeux de balle aux mains. Ainsi, dans la public school d'Eton, vers 1810, joutons au mur, qui consiste à faire avancer une grosse balle le long du mur de l'enceinte de l'école, alors que deux équipes se font face et se prennent dans une mêlée où tous les joueurs se mélangent. À Winchester, deux groupes d'élèves s'emboîtent tête baissée. Le défi consistant à expulser du pied la balle vers le cas adverse à partir de cette mêlée que l'on appelle hot, c'est-à-dire chaud. Ouais, c'était chaud. À signaler qu'à cette époque, dans le jeu du football, la pratique consistait à avancer vers le cas adverse balle au pied, en faisant des dribbles, mais sans se la faire prendre évidemment par l'adversaire, mais que la passe vers un partenaire viendra plus tard, courant du 19e siècle. Chacun ayant ses propres règles, les rencontres entre universités ou entre grandes écoles sont pratiquement impossibles. Au moment où justement le développement de certains moyens de transport va permettre l'extension des échanges, il devient essentiel de légiférer, d'uniformiser les règlements et de créer une structure chapeautant l'ensemble. Ainsi, en 1863, la Football Association, Fédération anglaise de football, voit le jour pour piloter l'ensemble des clubs qui pratiquent ce jeu. Avec la création de ces organes coordinateurs, régulateurs, qui vont avoir un rôle dirigeant et auprès desquels il va falloir se fédérer, ces jeux de balle collectifs vont devenir progressivement des sports. Et c'est à partir de ces jeux de balle joués au pied et à la main que va naître en Angleterre celui qui sera appelé rugby. Alors, ici nous devons nous référer à la légende et la tradition so-british pour compter la naissance de ce sport, le rugby. En effet, en ce début du 19e siècle, au moment où est censé naître le jeu de rugby, personne n'est là, évidemment, pour décrire les faits au moment où il se déroule. Et il n'y en a pas de traces. Ce n'est qu'à posteriori, mais très longtemps après, 70 ans environ, qu'une commission d'enquête nommée par les anciens élèves de la Schoolboy de rugby, qui se trouve à 300 km de Londres, cette commission va rédiger un rapport qui va donner un caractère officiel à une histoire, moi que j'appelle un conte, qui s'est transmis durant 7 décennies, pratiquement totalement par le bouche à oreille, même si en 1880, soit environ 60 ans après l'événement, un certain Matthew Bloxham écrit un article indiquant qu'il a lui-même assisté justement à cet événement. Ainsi, la légende de la naissance du rugby devient officielle en 1895, après la publication du rapport rédigé par la fameuse commission d'enquête. Dans son ouvrage Le rugby à 13 français le plus français du monde, Louis Bonnery lui-même écrit que d'après le rapport, la forme de football en vigueur en vogue en 1820 à l'école de rugby était quelque chose approximativement plus proche du Football Association, du vrai foot, que de ce qui est connu comme le rugby football maintenant, et qu'à une certaine date, en 1820-1830, l'innovation est fait introduite de courir avec la balle, que cela fut selon toute probabilité fait dans la seconde moitié de 1823 par Webb Ellis, qui est crédité donc par ce fameux monsieur Bloxham de l'invention, et que ces pratiques irrégulières étaient le sujet de discussion générale en ces temps-là. Voilà la citation du livre de Louis Bonnery.
Denis, bon, on va certainement passer, c'est très très intéressant, hein, et si on a un peu de temps, on le reprendra la suite à la fin de l'émission, ou la semaine prochaine, on prévoira un temps un peu plus long, parce que nous devons interviewer Jacques Rodriguez, qui est en ligne.
Priorité aux invités.
Je l'appelle.
Voilà, bon, du temps qu'elle l'appelle, Denis, tu as encore une minute, allez.
J'ai fermé maintenant.
On va rappeler que il n'y aura pas demain, il devait y avoir celui en Occitanie, FC Lézignan,
bien sûr. Et sur Radio Marseillette.
Et sur Radio Marseillette, oui.
Votre invité est là.
Il est là. Bon. Monsieur Jacques Rodriguez, bonjour.
Bonjour, monsieur Rodriguez.
Bonjour, messieurs. Très heureux d'être avec vous.
Alors, Jacques Rodriguez, on se demandait. Où était passé le comité de l'ordre de rugby à 13?
C'est une bonne question.
On n'avait pas trop de nouvelles. Et nous savons que maintenant, il y a une nouvelle équipe que vous présidez, c'est bien ça?
Exactement. Bon, il est vrai que ça fait déjà une paire d'années qu'on flotte au niveau du comité de l'ordre pour des raisons qui sont souvent, comme d'habitude dans notre sport, des raisons de personnes. On a mis en place une nouvelle équipe qui a été élue en septembre. Cette équipe s'est organisée, moi j'ai été nommé président, mais en parallèle il y avait des gens comme Jérôme Rouget qui était avec nous, il y avait deux membres de la section des jeunes de Limoux, il y avait M. Saez pour la MJC également, il y avait les Ignans, on avait Ornaison, on avait des arbitres qui sont venus avec nous également, il y avait Frileux et il y avait également Kevin Delarose. Donc on a essayé de mettre en place une équipe aussi éclectique que possible, qui puisse suivre le rugby dans notre département, en essayant d'apporter chacun à son niveau un petit un plus qui nous permette d'aller toucher les gens plus facilement, quoi. Parce que c'était quand même, dans la période qui nous a précédé, un peu plus compliqué que ça, puisqu'il n'y avait pas trop de monde à la fin, et c'est vrai qu'on a été obligé de réorganiser tout ça.
Alors, Président, est-ce qu'il n'est pas difficile, hein, de refaire revivre un comité dans des périodes comme celle que nous vivons?
On ne peut pas dire qu'on ait de la chance avec cette histoire de Covid, hein. Mais je crois que personne n'a de la chance, et je crois que ça impacte tout le monde. Quel que soit le niveau auquel on joue, auquel on pratique le sport aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions, on est obligé de s'en tenir aux contraintes qui nous sont données, aux directives qui nous sont données. On est obligé de suivre, et on n'a absolument aucune visibilité sur ce que nous pourrions faire. C'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure, mais on avait mis en place plusieurs choses. On avait mis en place un programme de travail pour le comité de l'ordre pour cette nouvelle année. Bon, c'est compliqué de le mettre en place dans la situation actuelle. Je ne suis pas certain. Je souhaite de tout cœur qu'on puisse tous rejouer avant la fin de l'année, hein. Mais je pense que ce sera dans tous les cas plus ou moins compliqué en fonction des âges et des catégories, même si j'espère que les choses vont se faire, hein. Dans tous les cas, pour mettre en place des démarches et des programmes à travers un comité, c'est encore plus complexe. Vous avez raison de dire que ce n'était pas obligatoirement le meilleur moment, quoi.
Oui, mais Président, je sais quand même que vous avez travaillé sur les axes à peaufiner pour le rugby à 13.
C'est-à-dire que pour nous, le comité, au départ, c'est essentiellement fait pour développer le rugby à 13 dans notre département. Bon, de ce point de vue-là, on a. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve dans l'équipe tous les présidents d'écoles de rugby. On a eu la volonté de mettre en place dès le départ des plateaux. Alors, on redémarre. Si vous voulez, les tournois sont des tournois qu'on a, les gros tournois sont des tournois qui viennent en moyenne tous les mois et plutôt en fin de saison rugbystique. On s'est rendu compte que nos gamins, les tout petits, les U5, les U7, avaient peu de pratiques et avaient peu de compétition. Si tant est que le mot compétition soit juste pour les enfants, hein. Dans tous les cas, peu d'échanges. Donc, ce qu'on a fait, on a mis en place des plateaux qui était fait pour se déplacer toutes les 3 semaines dans différentes communes. Il était prévu à Onaison un premier plateau, un autre à Lézignan, un autre à Carcassonne, un autre à Limoux. On avait même envisagé Belvez, Rieux, des endroits où on peut aller porter notre sport. Tous les clubs principaux de Limoux, de Lézignan, de Carcassonne étaient d'accord pour le faire, ce qui nous aurait permis de faire jouer au moins une fois par mois tous les gamins, de faire se rencontrer une fois par mois tous les petits, de façon à ce qu'ils aient du temps de jeu et de la pratique. Ça, c'était la première démarche que nous avions prévue au niveau des enfants. Bon. Ça s'est évidemment trouvé bloqué dans un premier temps par le confinement, puis ensuite par les règles sanitaires.
Ensuite, qu'avez-vous prévu? Parce qu'il a fallu restructurer un comité qui était un peu exsangue, ça n'a pas été... Ça n'a pas dû être facile non plus.
Non, mais il y avait quand même beaucoup de bonne volonté. Il y avait on était tous conscients que l'Aude était quand même l'Aude reste quand même aujourd'hui le deuxième, mais un des départements les plus importants en nombre de licenciés pour le rugby à 13. On a 3 clubs qui sont des clubs qui aujourd'hui, depuis des années, sont en haut des tableaux. C'est Limoux, c'est Lézignan et évidemment c'est Carcassonne. On a des locomotives qui sont très puissantes, on a des écoles de rugby qui sont bien organisées, donc il était quasiment impensable que le comité de l'Aude ne renaisse pas et ne vienne pas accompagner tout ce mouvement. L'objectif étant quand même, puisque c'est la vocation de départ, de chercher les jeunes qui vont pouvoir, à un moment donné, aller alimenter ces clubs. Mais pour les chercher, il faut les chercher partout, on en a, dans des bassins, comme le Minervois, où on est de moins, où on est peu présent maintenant, aller les chercher dans le Val-d'Orbieu qui s'organise, aller les chercher dans aller les chercher dans Limoux, tout autour de Limoux, tous ces bassins qui sont en train de s'organiser pour créer, des bassins dans lesquels on puisse récupérer des gamins qui viennent vers nous, qui soient attirés par le sport. Donc c'est vrai qu'on a voulu ça dès le départ, et toute la démarche, elle a été basée sur ce postulat de départ. C'est pour ça que derrière, on a cherché à mettre en place ces plateaux, dans un premier temps.
Denis? Après.
Oui, non, mais je pense que c'est une bonne démarche de s'adresser en priorité aux jeunes. Et donc, Mais c'est vrai que, bon, par ces temps de Covid, ça devient compliqué. Mais il n'empêche que cette démarche que vous êtes en train de nous décrire, monsieur le Président, un jour ou l'autre, on va, si c'est pas pour cette saison, ça sera pour la saison prochaine, quoi.
C'est ce qu'on pense. D'autant plus qu'on était sur une année sur laquelle il y avait quand même une véritable dynamique. On avait d'un côté Belvez 13 qui s'était monté. C'est sur de la fédérale. Et ça veut dire que c'est un bassin potentiel. On a de l'autre côté la Lézignan, on a une équipe qui s'est greffée, qui est venue se rajouter, qui est également qui avait l'an prochain la volonté de mettre en place une équipe cadet. On avait le Val d'Orbieu qui cette année s'est quand même un événement organisé en termes comme une école de rugby avec un président, M. Thomas, de façon à pouvoir développer sur tout ce bassin le rugby à 13, avec Ornaison pas très loin, il y avait quand même tout plein de petits frémissements qui nous laissent penser que des choses étaient en train de se mettre en place. Elles ne sont pas perdues, comme vous le disiez, on souhaite vraiment de tout cœur que tout ce qui a été mis en place, et je pense que ça se passera comme ça, puisse être reproduit, répété et amplifié la saison prochaine. Si on peut démarrer des choses en fin de saison, pourquoi pas? Mais on est bien conscient que le temps passe super vite, quoi, quand même.
Alors, le tournoi de la Saint-Valentin de Villeray-en-Rhône, du Val 13, rentre dans l'optique de vos projets.
C'est vrai, mais alors, en ce qui concerne Villegaillen, c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'en parler ensemble et de partager par rapport à ça, et je suis très heureux que ce type d'initiative soit prise, et ça correspond exactement à ce que nous souhaitons mettre en place. Donc c'est vraiment une très très bonne démarche et c'est très positif. Plus on apporte plus on va chercher d'enfants et plus on touche de parents en les sécurisant par rapport, ou dans tous les cas en leur montrant ce qu'on sait faire, et plus on a de chances de promouvoir notre sport. Hein. C'est d'ailleurs pour ça, tant qu'on y est, que nous avons mis en place une démarche avec une association qui s'appelle le Colosse au pied d'argile, qui est une association qui s'occupe, entre autres, de toutes les difficultés ou tous les problèmes que peuvent rencontrer les enfants avec les éducateurs, ou avec d'autres parents, ou avec je sais pas comment on peut dire ça, les problèmes, vous voulez pas m'aider, hein, parce que je n'arrive pas à trouver le mot.
Des enfants qui rencontrent des difficultés d'intégration, ou
plutôt les violences sexuelles.
Ah ouais, des violences, oui, qui sont soumis à qui sont soumis à des problèmes peut-être familiaux, etc., quoi.
Exactement. Donc ces problèmes, c'est vrai, sont largement mis en avant aujourd'hui par le ministère des Sports. Ils le sont également par les différentes compagnies de gendarmerie. Et c'est vrai qu'on a été abordé par rapport à ça, de façon à construire des programmes d'information qui viennent au-devant des parents, au-devant des enfants, au-devant des éducateurs, pour leur apporter de l'information, pour leur donner, pas des réponses, mais les aider à comprendre ce qui se passe. Ce type d'initiative, et j'espère qu'il y en aura d'autres sous cette forme-là, puisque ça, le programme pour octobre, a pour objectif de sécuriser les parents par rapport à notre environnement. Notre sport est un sport qui touche les enfants très tôt, puisqu'on est capable de les prendre dès l'âge de 3 ans, donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est un sport qui favorise l'intégration, qui aide les enfants à s'intégrer, à également appréhender la motricité et la compréhension de tout ce qu'ils peuvent faire physiquement. C'est un sport qui est assez génial de ce point de vue-là. Et c'est vrai que plus on va donner d'informations aux parents, plus on va les sécuriser, plus on va leur expliquer ce qu'on peut amener aux enfants, et plus on a de chances que des enfants, et donc des parents, et donc des enfants, bien sûr, viennent vers nous.
Oui, d'autant plus qu'avec la période actuelle, bon, de plus en plus de voix se font entendre, aussi bien dans le milieu médical que dans le milieu enseignant, qui en disant, bon, on ne pourra pas tenir longtemps comme ça des jeunes et les enfants à l'écart de toute pratique sportive, parce que le sport, ça fait partie des besoins de l'enfant, des jeunes, pour se développer et acquérir, pour se sociabiliser, pardon. Donc c'est vrai que comme on peut l'espérer à l'automne, bon, là maintenant ça paraît difficile, mais bon, je pense qu'il risque d'y avoir après, quand on va terminer avec cette épidémie, il va y avoir un besoin pour les enfants d'aller vers le monde sportif, et ça sera bien d'être prêt à les accueillir.
Je suis complètement d'accord avec vous, c'est ce à quoi on se prépare, hein, parce que il va falloir qu'on leur réponde, il va falloir qu'on les accompagne, et surtout il va falloir qu'on les sécurise très vite pour pouvoir les récupérer.
Exactement.
Vous pouvez imaginer que ce qui est en train de se passer est extrêmement démobilisateur pour les enfants par rapport au sport. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même super négatives dans tout ce qui est en train de se passer, et il est important très rapidement que les enfants reviennent sur les terrains, reprennent leurs activités sportives. C'est déterminant pour leur développement et pour leur équilibre. Hein. Il y a de plus en plus, comme vous le disiez, de personnes qui commencent à s'inquiéter de la façon dont les enfants vont pouvoir appréhender l'après-Covid quand même. Hein. On est face à un souci majeur. Hein.
Alors, Président, moi, je vais essayer de voir de parler de notre volet. Avez-vous, est-ce que vous allez avoir certaines prérogatives sur les clubs de fédéral, qui étaient à l'époque une grande force du comité d'ordre de Louis XIII?
Je crois, alors là, vous l'avez défini dès le départ. Un comité qui est absent pendant 2 ans et qui progressivement laisse d'autres structures, d'autres façons de fonctionner se mettre en place, ne peut pas, en arrivant, dire nous, on reprend les prérogatives et on reprend le fonctionnement tel qu'il se faisait. Notre volonté, c'est bien évidemment d'accompagner le développement. Le développement, il passe d'abord par les petits, mais aussi, et dans un département comme le nôtre, c'est encore plus fort, par la fédérale. Quand on voit la façon dont étaient organisés les différents championnats cette année, quand on voit le nombre d'équipes que nous avions représentées en national, il y avait quand même Ferral, Villeneuve, il y avait Poma, quand on voit qu'ils jouaient contre 3 clubs catalans, c'était pareil.
Oui, oui.
En fédéral, c'était pareil. Il y a un national, comment dire, en élite 2, on a quand même Villegayen. En fédéral, il y avait les clubs, il y avait Belvèze, il y avait Villegayen 2. Il y avait également le Val d'Orbieux, il y avait la nouvelle équipe qui se montait à côté de Lézignan, Corbière 13, pardon. Ça veut dire qu'on a vraiment un tissu fédéral qui est très fort. Pour autant, on les a accompagnés à travers tout ce qu'ils ont fait, puisqu'on a accompagné Belvèze dans ses démarches et dans la mise en place de son équipe. On a fait pareil avec l'équipe de Corbière 13. On est en dialogue avec les différents clubs de fédéral, on les accompagne. Très sincèrement, aujourd'hui, beaucoup sont autonomes, ils sont tous très organisés. On leur donne des informations, mais on ne peut pas aller. On n'a pas vocation à se substituer à ce que fait aujourd'hui la Fédé par rapport à tout ça.
Mais il faut quand même que les clubs qui se réhabituent, quel que soit leur niveau finalement, se réhabituent à travailler avec le comité, sous votre, que ce soit bon, et c'est bien que déjà au niveau des, qu'au niveau des écoles de rugby, comme vous l'avez dit, eh bien déjà toutes les écoles de rugby soient représentées au niveau du comité, ça va aider, mais il faut aussi que tous les clubs, petit à petit, progressivement, c'est sûr que ça va pas, vous n'allez pas remettre les choses en place comme ça, en claquant des doigts. Mais c'est vrai qu'il faut que les clubs vaudois se réhabituent à dire « bon, ben, on a un comité, il faut travailler avec ». Dans la mesure en plus où vous êtes présent et où vous allez faire, dès que ça sera possible, vous allez montrer que vous existez. Quoi.
On a, mais c'est le problème. Quand vous démarrez quand vous êtes élu, que vous démarrez une campagne, que vous mettez en place un programme, et que dans la foulée tout s'arrête, c'est super complexe à gérer. On n'a pas d'intériorité, donc on ne nous considérera, on ne travaillera avec nous, sachant que nous, on va aller vers tout le monde sans aucun souci, qu'à partir du moment où les gens auront bien conscience que nous existons et que nous faisons des choses. On ne peut pas se contenter d'être rien, ou dans tous les cas d'être une entité, simplement un nom. Il faut le remplir avec des actions.
D'où l'utilité d'une radio qui puisse faire revoir que le comité de l'ordre existe.
Il est présent, le comité de l'ordre est présent. Nous avons décidé, au niveau de l'ordre, d'engager nous le, on avait prévu de le faire cette année, on le fera l'an prochain, en U13 et en U15, d'engager deux équipes au lieu de, d'une équipe par, par niveau, on va en engager deux par niveau, de façon à ce que un maximum de jeunes soient présents avec le maillot du comité de l'ordre. On a revu la façon dont on allait le présenter, on est évidemment très impatients de voir la fédérale s'organiser et peut-être se structurer à travers des équipes de département si ça peut se mettre en place, hein, sachant que la fédération avait déjà prévu de mettre en place une équipe nationale au niveau de la fédérale. Donc des choses sont quand même en train de se dessiner, on va pouvoir les accompagner. Bon, il y a le comité, il y a la ligue, il y a la fédération. Je pense que toutes ces entités ont le même objectif, c'est développer et accompagner notre sport, hein.
En tous les cas, comme le disait Roger, ça, vous pouvez compter sur nous et n'hésitez pas, dans tous les cas, à nous faire passer toutes les infos.
Voilà. La porte et le micro sont grand ouverts, mais nous aurons l'occasion de réentendre, de réinviter avec grand plaisir le président du comité d'ordre aujourd'hui à 13h.
Et de tout soutenir toutes vos initiatives que vous prendrez, enfin, dès que ce sera possible, évidemment, mais vous pouvez compter sur nous et voilà, on sera à vos côtés pour vous aider.
On sera prêt. Voilà. On vous remercie beaucoup au nom de l'équipe et c'est vrai qu'on est impatients. Pour nous, vous êtes un relais extraordinaire parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup en dehors de la presse. Vous êtes le point radio incontournable et c'est vrai que dans la mesure où les choses se font à ce moment-là, quand on aura mis en place du concret, on vous informera au fur et à mesure, c'est évident.
Toujours les bienvenus. Merci président.
C'est très gentil à vous. Merci et à bientôt.
À bientôt.
Très bientôt.
Au revoir.
Alors, Denis. Au revoir. Denis, bon, on l'a dit, dimanche, il n'y aura que Limoux-Palot. Je vais vous parler de la semaine prochaine de 13 Passions, où l'invité de la semaine, ça sera Valentin Ferré, l'ailier. L'extraordinaire ailier.
Centre
ou ailier, ouais, il fait les deux. Du FC Lézignan 13. Et puis,
le meilleur marqueur de l'élite 1, Somma.
Meilleur marqueur de l'élite 1.
C'est pour ça que et nous puis, avons l'invité.
Voilà. Et puis, samedi matin, à 10h05, c'est le retour du rugby à 13 chez nos amis de Bisport, puisqu'il y a les fameux matchs des arborigènes. On en reparlera vendredi prochain, mais déjà, commencez à vous préparer à 10h05. La semaine prochaine, on vous dira exactement ce qui se passe, la chaîne et tout. Mais c'est le retour, enfin, du rugby à 13, il nous tardait, Denis, sur la NRL, sur les antennes de Bisport.
Oui, alors, donc moi, je ne veux pas quand même terminer sans me parler de... Même si Nicole et l'a défloré dimanche dernier... en compagnie de Victor Jalbeau, il faut quand même qu'on me rappelle